On va pas bout de notre plaisir avec la revue de presse, l'homme qui est probablement le plus écouté de France à cette heure-là, la revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour. Oh
là, il se sent plus là, Frédéric.
Bonjour Patricia.
Il crâne un peu Frédéric Pommier ce matin. Voilà. C'est le pic d'audience.
Bonjour à tous.
C'est ça. On y va quand même pour la revue de presse avec un peu de modestie.
On ne connaît que son prénom. Il s'appelle Marc et il est âgé de 50 ans. Depuis 18 mois, il est en arrêt maladie. Dépression sévère, directement liée à ses conditions de travail, relève le rapport de l'expert médical. C'est malheureusement une chose assez commune, quelqu'un qui tombe malade à cause de son boulot. Mais si ce matin, Mediapart nous raconte l'histoire de Marc, c'est parce qu'elle est singulière. Il travaillait à l'Élysée. Une forme de réussite professionnelle, dit-il quand il évoque son arrivée en 2007. Détaché du ministère de l'Intérieur, il est nommé chef de bureau du courrier des particuliers, le service chargé des lettres adressées au président de la République. Marc a alors 30 personnes sous sa direction. Je répondais, dit-il, à la tristesse des gens qui n'intéressent personne. Mais fin 2016, à la fin donc du mandat de François Hollande, l'ambiance se dégrade comme à l'approche de chaque élection présidentielle. Entre les agents de l'Élysée, c'est un système de cours et on se fait la guerre pour récupérer le poste de l'autre. Tous les coups sont permis, on le découvre dans l'article. Trois des collègues de Marc l'accusent ainsi de harcèlement moral et sexuel. Avant de reconnaître qu'elles avaient menti, c'était une tentative de déstabilisation. Qu'importe, la hiérarchie de Marc le rétrograde. Il n'est plus chef, mais seulement adjoint. Il perd 100 euros par mois. Et l'arrivée de l'équipe d'Emmanuel Macron à l'Élysée n'apaise pas la situation. Bien au contraire, elle précipite la mise au banc de ce cadre. Nouveau courrier diffamatoire, des lettres anonymes. Marc a l'impression de revivre un cauchemar. D'autant que les collègues qui l'avaient accusé à tort n'ont jamais été sanctionnés par la DRH. Il devait reprendre le travail l'an dernier, mais on l'informe alors que la présidence a décidé de mettre fin à ses fonctions, qu'il retourne bosser au ministère de l'Intérieur. Ça a fini de m'achever, dit-il, en dénonçant le mépris, la violence professionnelle dont il fait l'objet depuis 2 ans. Une enquête pour harcèlement moral a été ouverte. Elle vise l'ancienne directrice des ressources humaines de l'Élysée.
Mais à l'Élysée, où le chef de l'État donnera une conférence de presse la semaine prochaine.
Jeudi, 18h, sous les lustres à Pompidou de la salle des fêtes. Intervention pour enfin dévoiler ses réponses aux questions posées lors du grand débat national. La presse ce matin évoque les sujets qui seront abordés. Emmanuel Macron confirmera-t-il la suppression de l'ENA dans Le Monde? On peut lire la désolation de quelques hauts fonctionnaires. Ils se voient comme des victimes expiatoires. Emmanuel Macron reviendra-t-il sur les limitations de vitesse à 80 km/h? C'est le dossier à la une du Parisien. Opposants comme défenseurs de la mesure attendent une mise au point du chef de l'État pour l'heure. C'est le grand flou. De quelle manière parlera-t-il des gilets jaunes? 23e journée de mobilisation ce samedi, mais qui sont-ils vraiment, s'interroge Le Monde, évoquant des cortèges toujours composites que rassemble une même rhétorique anti-système. L'ultra-droite aurait déserté au profit de l'ultra-gauche et de manifestants syndiqués habitués aux mouvements sociaux. Le journal évoque aussi les violences policières, le tabou des autorités malgré les nombreux dérapages. Le gouvernement refuse d'employer ces mots-là.
Les policiers, il en est aussi question sous un autre angle, dans le journal L'Est Républicain.
Et dans le Républicain Lorrain, et dans la Provence également, on parle de grand malaise, de pression, d'état d'alerte. 28 fonctionnaires de police se sont suicidés depuis le mois de janvier. Des hommages étaient organisés hier. Une autre hécatombe à la une du journal de la Haute-Saône. De la Haute-Vienne, cette fois ce sont les suicides d'agriculteurs. Le chef de l'État parlera-t-il des paysans? Et sur l'environnement, que dira-t-il jeudi?
C'est la question que pose Nicolas Hulot dans Libération.
Et une nouvelle fois, il tire la sonnette d'alarme, se référant à l'émotion provoquée par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il se réjouit, dit-il, de la mobilisation suscitée par l'incendie, mais je n'en vois pas l'équivalent face au délitement de l'immense cathédrale qu'est notre planète. Notre société ne réagit que quand les effets sont visibles. Ceux de la crise écologique le sont, mais les flammes sont moins palpables. Et pourtant, dit-il, Notre-Dame nous montre que quand la nature s'exprime, le feu c'est la nature, nous sommes confrontés à notre insignifiance et à notre impuissance. Aujourd'hui, Nicolas Hulot dit qu'il ne ressent plus de colère devant l'inaction des hommes politiques, mais plutôt de l'incompréhension.
Notre-Dame, que l'on retrouve ce matin encore à la une de nombreux journaux.
Un dossier de 12 pages dans Libération sous le titre « Sacré chantier », difficultés techniques, polémiques sur les donations, la restauration de la cathédrale s'annonce mouvementée, indique le quotidien, qui liste les problèmes qui s'annoncent, sachant que l'édifice est encore loin d'être assez sécurisé pour imaginer le début des travaux. Il va falloir enlever l'échafaudage, évaluer l'état des murs, réparer les pierres, choisir la charpente. L'historien Stéphane Michonneau estime qu'il faudra conserver quelques traces de l'incendie afin d'éviter l'amnésie, que les prochaines générations se souviennent du 15 avril 2019. Et puis le journal revient aussi sur la vague d'émotions provoquée ce lundi. Une vague qui a eu pour effet de mettre du baume au cœur des catholiques, des fidèles qui se sont eux-mêmes mobilisés. C'est le thème des dossiers de La Croix et du Figaro après le choc, l'élan de ferveur des catholiques. Dans les jours qui ont suivi l'incendie, des rassemblements spontanés se sont multipliés. En cette semaine sainte, les cathos affichent leur fierté, commente le journal, tandis que le Parisien nous explique que chez les soutiens du chef de l'État, on se réjouit qu'Emmanuel Macron ait transformé cette catastrophe en opportunité pour faire l'union nationale et effacer un peu, même temporairement, la crise des gilets jaunes. La Macronie touchée par la grâce, c'est le titre. Certains militants filent même la métaphore christique en cette veille de week-end pascal. L'un compare Macron à Jésus, rien que ça. Jésus entouré de ses apôtres, Richard Ferrand, c'est Saint-Pierre, Christophe Castaner, c'est Saint-Jean. Et Judas, alors? Réponse du militant, c'est Gérard Collomb.
Une autre cathédrale est en photo, c'est dans les dernières nouvelles d'Alsace.
La cathédrale de Strasbourg, fait divers, rien de très inquiétant. Hier, un touriste russe a perdu le contrôle de son drone qui est resté coincé dans la flèche de l'édifice Sébalo. De son côté, Nice Matin nous apprend que des lapins ont colonisé les ronds-points de la commune de Carreau. On ne nous donne pas la couleur de leur gilet. Enfin, la Charente libre revient sur le drame qu'ont vécu de nombreux habitants de la région suite à l'incendie d'un émetteur. Les Charentais ont été privés de TNT pendant 3 jours. Désormais, tout est rétabli, mais ils ont donc passé 3 jours sans télé. Dès lors, comment ont-ils fait, se demande le journal. Rien de trop grave, ils ont appris à se divertir loin de leur petit écran. C'est possible et on peut même allumer la radio France Inter, par exemple, vous le disiez tout à l'heure, paraît que même le week-end, c'est une radio très écoutée.
Première matinale de France, on n'en est pas peu fiers et c'est l'occasion de remercier une nouvelle fois les auditeurs de France Inter, effectivement. Merci Frédéric Pommier, à demain.
À demain.